Chapitre 7 Communion. Les deux chapitres précédents nous ont montré les changements importants produits dans les voies de Dieu envers Israël par l'établissement, en Sion, de la royauté de David. Le roi y amène l'arche, associant ainsi le trône de Dieu à son gouvernement. Ce n'est pas encore, nous l'avons vu, un état de choses fondé à perpétuité, comme sous le règne de Salomon. C'est pourquoi nous ne trouvons pas ici l'ordre régulier du culte. David amène l'arche à Jérusalem, mais non pas les autres objets du tabernacle. Il dresse pour l'arche une tente, mais ce n'est pas la tente du désert. Ils placèrent l'arche de l'Éternel en son lieu dans la tente que David avait tendue pour elle. Chapitre 6, verset 17. Le tabernacle lui-même, avec l'autel, se trouvait autre part. Dans le premier livre de Samuel, le tabernacle et l'arche sont à Silo. L'arche est emmenée en captivité par les Philistins, mais quand elle remonte en grâce, elle ne retrouve pas sa place en Silo, dans l'endroit où l'on pouvait s'approcher de Dieu par le sacrifice. Dans le deuxième livre de Samuel, Silo disparaît, mais le tabernacle n'est pas transporté à Jérusalem. On le retrouve à Gabaon, sans qu'il nous soit dit comment il y est arrivé. Une chose est certaine, c'est que le tabernacle et l'autel de l'Holocauste sont à Gabaon lorsque David amène l'arche sur la montagne de Sion. Et David laissa là, devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères pour faire le service devant l'arche continuellement, selon l'œuvre de chaque jour. Et Tsadok, le sacrificateur, et ses frères, les sacrificateurs, devant le tabernacle de l'Éternel, au haut lieu qui était à Gabaon, pour offrir des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Holocauste continuellement. 1 Chronique 16, versets 37 à 41. Plus tard, lors de la peste de Jérusalem, quand David, sur l'ordre de l'Éternel, bâtit un autel sur la colline de Morija et y sacrifie, il est dit, le tabernacle de l'Éternel que Moïse avait fait dans le désert et l'autel de l'Holocauste étaient en ce temps-là sur le haut lieu de Gabaon. Et David ne put point aller devant cet autel pour rechercher Dieu, car il était épouvanté à cause de l'épée de l'ange de l'Éternel. 1 Chronique 21, versets 29 et 30. C'est encore à Gabaon que Salomon sacrifiait au début de son règne. Et le roi s'en alla à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. 1 Roi 3, verset 4. Tout cela nous montre, pendant le règne de David, un état de désordre ou plutôt de grande faiblesse quant au culte de l'Éternel. Silo était virtuellement abandonné depuis la ruine de la sacrificature. Psaume 78, versets 60 et 61. Et il abandonna la demeure de Silo, la tente où il avait habité parmi les hommes, et il livra à la captivité sa force et sa magnificence en la main de l'ennemi. La maison de l'Éternel n'était pas encore bâtie à Jérusalem, et le culte était pour ainsi dire scindé entre l'arche de Sion et l'autel de Gabaon. Les autres ustensiles étaient restés dans le tabernacle. Ils sont mentionnés en 1 Roi 8, verset 4. Et ils firent monter l'arche de l'Éternel et la tente d'assignation et tous les ustensiles du lieu saint qui étaient dans la tente. Gabaon étant une ville des fils d'Aaron, Josué 21, verset 17, on pouvait supposer que, comme pour Nob, 1 Samuel 21, verset 6, les objets du sanctuaire s'y trouvaient sous la garde des sacrificateurs. Quoi qu'il en soit, le culte de l'Éternel sous le règne de David était bien loin de ce qu'il aurait dû être. Mais une chose suffisait à David, objet de tous ses désirs pendant ses afflictions. Psaume 132, versets 1 à 8. Il avait trouvé un lieu de repos pour le trône de l'Éternel des armées, pour l'arche de sa force. Là où David était établi, il avait maintenant avec lui le Dieu d'Israël, car le nom, chapitre 6, verset 2, représente la personne. Sa ressource, précieuse entre toutes, au milieu de la dispersion des objets saints, en un temps de transition auquel allait succéder la gloire de son successeur, sa ressource, dis-je, était la présence de Dieu lui-même, avec lui et avec son peuple Israël. C'est aussi, dans le jour actuel, ce qui constitue la bénédiction des fidèles. L'Église est dans un état de ruine et de véritable désordre, mais une chose nous suffit, c'est d'avoir la présence personnelle du Seigneur au milieu de nous. Ayant un tel privilège, comment nous laisserions-nous décourager par l'état de choses qui nous entoure? Avec lui, bien mieux que David, n'avons-nous pas le culte? Cette présence suffisait à remplir de joie et d'action de grâce le cœur du roi. Au chapitre 7, David habite dans sa maison. La puissance de Dieu lui a donné du repos de tous ses ennemis. Sa royauté est proclamée. L'arche est avec lui. Alors, dans son affection pour l'Éternel, il désire lui bâtir un lieu permanent de repos. L'arche pourrait-elle encore habiter sous des tapis, dans une demeure de passage, quand David habite une maison de cèdre, solide et fondée dans sa beauté? Il fait part de son désir à Nathan le prophète. Désir d'un cœur pieux, car il voulait voir la gloire établie en Israël. Nathan l'approuve. Va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Verset 3. Si David s'occupait pieusement du repos de Dieu en Israël, ni lui ni le prophète ne connaissaient le moment que Dieu avait décrété pour cela. David ne devait pas faire ce qui était dans son cœur. Il lui fallait dépendre de Dieu et s'attendre à lui. Nathan ne pouvait pas se fier à son don de prophète pour diriger David. Le roi, malgré sa piété, se trompe. Le prophète, avec toutes ses lumières, fait erreur. David est un homme qui dépend réellement de l'Éternel. Mais en combien d'occasions cette dépendance lui fait défaut? Il ne pouvait pas même se confier à son affection pour le Seigneur et venait de la prendre lors de la brèche d'Uza. Il devait interroger Dieu, et pas plus que le roi, Nathan n'était exempt de cette obligation. Il faut que chacun de nous, individuellement, ne dépende que de Dieu. Les hommes les plus pieux ne peuvent le remplacer. Lot marche un temps avec Abraham. Hélas, quelle fut sa fin ? Abraham marchait avec Dieu. Considérons l'issue de sa conduite et imitons sa foi. Certes, nous pouvons écouter des conseils, en demander à ceux qui sont plus avancés que nous en connaissance, en sagesse, en vraie piété. C'est ce que font les cœurs humbles qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Mais nous ne devons dépendre que de Dieu pour nos décisions et pour notre marche. L'Éternel a compassion de son serviteur. Il voit dans son cœur le désir de l'honorer et lui révèle sa pensée secrète. Il arriva cette nuit-là que la parole de l'Éternel vint à Nathan, disant « Va et dis à mon serviteur, à David, ainsi dit l'Éternel, me bâtirais-tu une maison pour que j'y habite ? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les fils d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. » Mais j'ai marché çà et là dans une tente et dans un tabernacle. Versets 4 et 6. Jamais, dit-il, je n'ai pris de repos jusqu'ici. J'ai toujours été errant avec mon peuple. Tant que l'ordre définitif n'est pas établi, je n'ai pas dit un mot au sujet d'un lieu de repos à me bâtir. Pourquoi cela ? C'est que Dieu estimait qu'il n'avait pas encore trouvé son repos définitif à lui. Il continuait d'agir. Il sacrifiait son propre repos à celui de son peuple, à celui de son roi, et son activité se déployait encore en leur faveur, afin de les établir sur la montagne de son héritage, de les y planter, comme il était dit au cantique de Moïse, « Tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage. » Exode 15, verset 17. Et Dieu n'avait pas encore terminé ce travail. Il veut l'achever et prend le rôle de travailleur en faveur de ce misérable peuple. Il laisse, pour ainsi dire, entièrement de côté ses intérêts à lui, afin d'établir définitivement son peuple dans un repos que rien ne viendra troubler pour toujours. Le mot « pour toujours » caractérise toutes les bénédictions de ce chapitre. Versets 13, 16, 24, 26, 29. Telle est la pensée de Dieu pour les siens. Nous aussi, nous avons le Seigneur qui travaille à notre bénédiction. N'a-t-il pas dit « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille » Jean 5, verset 17. Il n'a pas encore cessé de travailler par son esprit et sera à l'œuvre jusqu'au moment où il verra du fruit du travail de son âme et sera satisfait. Ésaïe 53, verset 11. Alors Dieu pourra avoir du repos, en donner à son peuple, à son roi, qu'il établira chef sur toute chose. Alors il se reposera lui-même. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu ne verras plus le mal. En ce jour-là, il sera dit à Jérusalem, « Ne crains pas. Sion, que tes mains ne soient pas lâches. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Il sauvera. Il se réjouira avec joie à ton sujet. Il se reposera dans son amour. Il s'égayera en toi avec chant de triomphe. » Sophonie 3, versets 15 à 17. Voilà le repos de Dieu, quand il aura introduit dans le repos tous les objets de son amour, qu'il les aura autour de lui dans la gloire, sans changement désormais, sans qu'aucun nuage puisse passer sur eux. Quand le Seigneur verra ce que son cœur réclame, de son œuvre à la croix le fruit mûr et parfait, alors ce sera le repos de Dieu. Oui, il se reposera dans son amour. Le repos de la création a duré un jour et a été troublé. Le repos de la rédemption ne le sera jamais et durera pour toujours. Le premier livre des rois nous présente ce repos en type, dans le règne glorieux de Salomon, faible image de celui de Christ. Alors la justice et la paix régneront sur la terre après s'être entrebaisés sur la croix. Psaume 85, verset 10. Et ce ne sera pas la fin. De nouveaux cieux et une nouvelle terre succéderont au premier, et la justice y habitera quand son règne aura pris fin. 2 Pierre 3, verset 13. Avant que ces choses aient lieu, nous trouvons dans notre livre une période de transition où Dieu travaille pour amener le plein accomplissement de ses conseils. Dieu dit à David ce qu'il a fait pour lui. « Je t'ai pris des parcs, d'auprès du menu bétail, pour que tu fusses prince sur mon peuple, sur Israël. » Verset 8. Telle était son origine. « J'ai été avec toi partout où tu as marché. Et j'ai retranché tous tes ennemis de devant toi, et je t'ai fait un grand nom, comme le nom des grands qui sont sur la terre. » Verset 9. Dieu l'avait soutenu en grâce de son premier à son dernier pas. Partout, il avait été avec lui et avait voulu le rendre puissant et honoré. Et j'ai établi un lieu à mon peuple, à Israël, et je le planterai, et il habitera chez lui et ne sera plus agité. Et les fils d'iniquité ne l'affligeront plus comme au commencement et depuis le jour où j'ai établi des juges sur mon peuple Israël. Versets 10 et 11. Quelle grâce, quelle tendre pitié pour ce peuple. Il l'appelle son peuple avec délice. Et, quant à David, je t'ai donné du repos de tous tes ennemis. Mais je veux faire plus encore pour toi. Tu voudrais me bâtir une maison? C'est moi qui me mets à ton service pour t'en établir une, non pas une maison de cèdre, mais l'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai après toi ta semence qui sortira de tes entrailles et j'affermirai son royaume. Lui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai le trône de son royaume pour toujours. Versets 13 et 14. Est-ce seulement dans la personne de Salomon? Non. Dieu dirige les regards de David vers Christ, la postérité de David. Quelle pensée devait remplir le cœur du roi en présence d'un tel honneur fait à sa race? Les promesses de la grâce vont jusqu'au royaume éternel. Moi, je lui serai pour père et lui me sera pour fils. Le fils de David sera le fils de Dieu. Hébreux 1, verset 5. Quelle perspective pour le cœur de David! Un fleuve de grâce coule vers lui et découlera de lui. Après cela, Dieu parle à David de Salomon, non plus comme type de Christ, mais comme homme faillible auquel une responsabilité sera confiée comme telle. Il peut tomber sous la discipline et sous le châtiment de Dieu. S'il commet l'iniquité, je le châtirai avec une verge d'homme et avec des plaies des fils des hommes. Verset 14. Mais sa descendance sera établie à toujours. Ma bonté ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré d'avec Saül que j'ai ôté de devant toi. Et ta maison et ton royaume seront rendus stables à toujours devant toi, ton trône sera affermi pour toujours. Versets 15 et 16. Dieu a-t-il menti? La descendance de David semble avoir pris fin. Les faibles vestiges de son trône paraissent tomber en poussière avec Zorobabel, qui ne mérite pas le titre de roi. Et voici déjà que la voix de Zacharie crie à Zorobabel, Zacharie 4, versets 6 à 10, « Réjouis-toi avec transport, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne et sur un poulain, le petit d'une ânesse. » Zacharie 9, verset 9. Il n'y a donc pas d'interrègne, mais le Messie, le vrai roi, est rejeté par son peuple. Sans doute, le trône est maintenant perdu, et la promesse de Dieu à David ne s'est pas réalisée. Où est le roi? Où est la succession de la semence de David? Mais non, le trône existe. Avant que Dieu l'établisse de nouveau sur la terre, il est établi dans les cieux. Le fils de David est allé recevoir un royaume et revenir. Luc 19, verset 12. Il est reconnu chef de la partie céleste de son royaume avant que la partie terrestre lui soit soumise à son tour. Le roi est mort. Vive le roi, disent les hommes en acclamant le successeur du souverain décédé. Mais le Christ est mort une fois. Le Christ, son propre successeur, vit éternellement. Depuis la croix de Christ et sa réjection par les Juifs, nous avons une parenthèse qui va de la formation de l'Église jusqu'au moment où le Seigneur l'enlèvera pour l'introduire dans la gloire avec lui. C'est seulement ensuite qu'il revendiquera ses droits sur la partie terrestre de son royaume. Toutes les grâces assurées de David se réaliseront en celui dont le royaume sera affermi à toujours. J'aime à donner pour titre à ce chapitre la communion. Dieu y confie à David toutes ses pensées, non seulement au sujet de lui et de son peuple, mais au sujet de Christ. David entre, s'assied devant l'Éternel, et en toute liberté, en toute confiance, s'adressant au Dieu des armées qui siège entre les chérubins, lui communique ses propres pensées, les pensées de la reconnaissance la plus profonde pour tout ce que Dieu a fait pour lui. Il se réjouit avec Dieu de ce que Dieu a le dessein d'accomplir pour lui, son peuple et sa maison. La première chose digne de remarque, c'est l'humilité du roi. Il n'a aucune pensée d'orgueil. La communion avec le Seigneur, au lieu d'élever l'homme, l'abaisse à ses propres yeux. Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison que tu m'aies amenée jusqu'ici? Verset 18. Comme il connaît bien son origine et s'en glorifie, parce qu'elle exalte le Dieu qu'il a pris d'auprès des parcs du meut du bétail. Ne pouvons-nous pas dire les mêmes paroles, nous, tirée de si bas pour avoir part à l'ère glorieuse qui va s'ouvrir. Qui suis-je et quelle est ma maison que tu m'aies amené jusqu'ici? Et encore cela a été peu de chose à tes yeux, Seigneur éternel, et tu as même parlé de la maison de ton serviteur pour un long avenir. Verset 19. Tu as montré ta grandeur en me donnant un grand nom, à moi un être misérable et sans valeur. Ah, ce n'est pas moi, c'est toi dont la grandeur est magnifique. Est-ce là la manière de l'homme, Seigneur éternel ? Verset 19. Et David, que pourrait-il dire de plus ? Il se tient devant Dieu, donnant libre cours aux sentiments qui le remplissent, mais sachant que ses paroles seront toujours trop faibles pour les exprimer. Ensuite, versets 23 et 24, il bénit l'Éternel de ce qu'il a fait pour son peuple. Au verset 25 arrive la prière qui termine ce chapitre. On y trouve le caractère d'une vraie prière de communion. Fais ce que tu as voulu faire et ce que tu as dit. Que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi, car tu as révélé à ton serviteur disant « Je te bâtirai une maison ». Qu'il te plaise de bénir la maison de ton serviteur, car toi, Seigneur éternel, tu as parlé. Versets 26 à 29. Nous pouvons nous former sur cette attitude. Ayant reçu dans nos cœurs les communications divines, éprouvons ce que sont les prières de cœur qui demandent à Dieu les choses que lui-même nous a promises, car il aime à donner les choses que nous lui demandons, à nous accorder selon nos pensées et nos désirs, parce que, étant le fruit de la communion avec lui, elles sont ses pensées et ses désirs.